RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter.
Scouse. Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Jean-Christophe Drouet.
Salut à tous, c'est l'After Foot, la seule émission de foot au monde que vous pouvez suivre à la radio, sur RMC et à la télévision, sur RMC Sport News. L'After de 21h à minuit, comme d'habitude. Et ce soir, pour vous régaler, le seul membre de l'After qui vient en footing faire une émission, Ludovic Obraniak. Salut Ludo.
Salut les amis, content de vous retrouver.
Hey, tu rentres de vacances, tu es
bronzé,
le teint hâlé, magnifique.
Reposé, je sais pas, parce qu'il y a un truc très vrai, c'est que les vacances en famille, tu reviens aussi fatigué qu'avant de partir.
Exactement, avec des enfants.
Ta famille appréciera.
Voilà, exactement.
Non, mais avec des enfants en bas âge, forcément, les vacances n'ont pas le même.
Habilement de dire à sa femme que l'année prochaine, il partirait entre potes.
Voilà, exactement.
Ou nous deux.
Ah oui.
Ouais,
ah oui,
c'est bien aussi.
Parce que sinon, je vais me faire appeler Arthur en rentrant.
Il y a une pub que j'adore en ce moment. Je sais pas si tu la vois, où il y a un couple sur la plage, là, et la femme dit: ah, les enfants me manquent quand même. Le mari dit: ah bon? La femme répond:
ben non, comme on est bien là.
Vous l'avez pas vu? Non, je l'ai pas vu, mais franchement, tu la racontes bien.
Elle est encore mieux jouée.
Elle est très bien. Et elle est parfois un peu vraie. Il faut le dire.
Souvent.
Même si on aime nos enfants.
Bien sûr.
Ludo, t'es donc venu en footing?
Je suis venu en footing, ouais. J'ai quelques kilos à perdre là. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de venir au boulot en footing.
Pourquoi t'as un peu forcé sur la charcuterie corse?
Un petit peu. Déjà avant la Corse, mais ça a fait que confirmer. Donc
encore, si tu fais pas ça, ça sert à rien d'y aller. Quoi.
Ça sert pas grand chose d'y aller. Oui.
Le seul membre de l'After maintenant qui fait des cauchemars avec Guignon, c'est Pierre Ducrot. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Paraît qu'hier t'as envoyé dans l'After.
Bah j'ai parlé d'un des plus grands regrets de ma carrière. Là, ouais. Effectivement, de ma petite carrière.
Finale
de Coupe de la Ligue, et puis tu perds contre une équipe de D2, c'est un truc jamais vu quoi. Une équipe de D2 n'avait jamais gagné une finale de Coupe.
Mais t'en fais vraiment encore des cauchemars ou pas?
Non.
Mais il y a une petite cicatrice qui est là.
J'en ai jamais fait de cauchemar d'ailleurs. C'est une fois que c'est fini, mais voilà, hier on s'est amusé, il y avait un hashtag pendant l'émission. Quel est le match que vous changeriez si vous deviez en changer? Pour moi, c'était celui-là.
C'est la Coupe de la Ligue, Pierrot, sur la Coupe de France encore. Mais la Coupe de la Ligue, tu relativises maintenant.
Alors ça me concerne que moi, effectivement, il y a eu des matchs bien plus importants et bien avec des enjeux, des scénarios. Tiens, parce qu'on a fait aussi des scénarios bien plus palpitants. Mais moi, en tant que joueur, je l'ai dit hier, je savais que j'allais pas être champion du monde ou champion d'Europe avec l'équipe de France. Je savais que j'allais pas être 10 fois champion de France. C'était un titre que tu pouvais normalement facilement ajouter à ton palmarès. C'est ça qui fait mal en fait, c'est que tu perds pas contre une équipe qui est plus forte que toi, c'est que tu passes au travers de ton match. Bon, ben voilà.
Guignon.
Le hashtag change ton match, c'est plutôt pas mal. Tu changerais lequel, toi?
Je changerai celui de l'Euro 2012, le dernier match de poule contre la République tchèque, où on devait absolument s'imposer et en jouer l'Allemagne, probablement en huitième de finale. Ça aurait été chez nous en plus, en Pologne, un match ô combien important. Et on n'a pas réussi à battre les Tchèques, donc on est passé à la trappe.
Il y a eu une, non?
Non, ils nous ont battu, on avait fait 2-0 avant contre la Grèce et la Russie. Et on se fait battre par les Tchèques sur le dernier match.
Ok, bon bah si vous voulez qu'on continue ce hashtag change son match.
On a fait une heure d'émission avec ça, on aurait pu faire 3 heures. On a eu un nombre de messages d'auditeurs incalculables. Ben oui, parce que tout le monde a son match référence, enfin, ou son match frustrant comme ça. Alors il y a celui des supporters de clubs qui se sont fait avoir, les Marseillais avec la main de Vata.
Et les Parisiens, ils changent plutôt quoi
sur Nilmar. Les Parisiens, c'était beaucoup.
La remontada ou Manchester?
Je suis pas sûr que. Non, Manchester, pas beaucoup, parce que je pense que les supporters en voulaient plus aux joueurs qu'à une sorte d'injustice ou quoi que ce soit. Mais la remontada est revenue un peu. On n'a pas eu tant de supporters que ça du PSG finalement. On a eu beaucoup de Lyon avec ce pénalty non sifflé sur Nilmar. Et puis il y a eu beaucoup de réponses avec l'équipe de France, le France-Bulgarie avec Kostadinov.
Finale du monde, 2006.
Il y a eu 2006, c'est
Mais est-ce que tu
l'Allemagne.
Est-ce que tu le changes vraiment ce match? Parce que c'est ce qui te permet aussi quelque part d'être champion du monde, de tourner la page, la Bulgarie.
Ouais. C'est ce qu'on a dit hier. Effectivement, ça te permet de basculer sur autre chose derrière.
Bah attendez, on va faire plus simple, on va rediffuser l'émission d'hier. Comme ça, hop, nous.
On peut laisser l'hashtag tout l'été, comme ça on rentre à la maison. Et puis hop, on déroule.
Hop, 21h20, je suis dans le canapé.
un petit Auxerre Lens aussi, quand j'étais gamin. Qui nous a pas permis, avec Metz, d'être champion de France en 98. D'accord. On est battu par le Racing Club de Lens au Golavérage, il me semble. Dans les derniers matchs, dans les dernières minutes, un but improbable de Yohan Lachor, je crois.
Ah oui,
il me semble.
Le but du titre, soldat Lachor.
En tant que gamin et supporter du FC Metz, ça avait été terrible.
C'était le hashtag changer le résultat. Voilà, pour être précis. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires. Et de toute façon, on l'a bien compris, Ludovic Obraniak a très envie de s'allonger sur le divan pour nous parler de ces mauvais matchs. Dans quelques instants, Nabil Fekir quitte l'OL pour le Real Betis. Est-ce une bêtise de sa part ? J'aime l'humour, comprenez-vous en tout cas le choix de Nabil Fekir.
Ça a été fait hier soir, je sais.
Ah oui, mais les mecs, vous faites toutes les blagues quand je suis pas là. En plus, j'ai pas écouté l'émission.
Ouais, fallait écouter le podcast, t'aurais vu.
Pardonnez-moi. Bon, bah, tu me diras si je fais les mêmes choses que Nico Jamin. Parce que sinon, on peut l'appeler, il fait directement l'émission. Hein.
Non, je crois.
À 21h30, Dimitri Payet a retrouvé une seconde jeunesse lors de cette préparation estivale. Payet, homme providentiel de l'OM cette saison. Est-ce que vous y croyez? À 22h, notre invité exceptionnel ce soir, c'est Didier Quillot, le directeur général de la LFP. Il sera avec nous dans l'after pour tirer un bilan de cette escapade américaine pour 4 clubs français et on se posera cette question, la Ligue 1 est-elle vraiment exportable ? À 22h30, le vice-président du Barça annonce que les Blaugrana ne travaillent pas sur un retour de Neymar dans leur club. Est-ce du bluff ? On attend votre avis au 32-16 évidemment et puis à 23h, toutes les informations mercato du jour. À 23h30, une petite surprise, on va jouer dans cette émission, je testerai vos connaissances évidemment sur le football. C'est parti pour l'after, appelez-nous en nombre, le 32-16, le hashtag RMC Live. Si vous n'avez plus de crédit sur la MobiCard, c'est parti. Nabil Fekir va donc connaître, c'est officiel, son deuxième club professionnel après son club formateur, Lyon depuis 2013, l'international français, tente l'expérience espagnole, la Liga, le Real Betis, les deux clubs ont trouvé un accord total aujourd'hui, le montant du transfert avoisinerait les 25 millions d'euros, plus 20% à la revente pour l'Olympique Lyonnais, ne manque plus que la visite médicale pour valider le transfert, donc évidemment... Il faut rester prudent, car on sait ce qu'il s'est passé l'été dernier pour Nabil Fekir avec la visite médicale, mais normalement, il devrait donc rejoindre le club espagnol. Comprenez-vous le choix de Nabil Fekir ? Oui, non, supporter lyonnais, vous nous appelez au 32-16. Ludo ?
Écoute, on va pas se cacher sur le fait que cette décision est une surprise, puisqu'on connaît quand même Nabil Fekir, qui a été un joueur ô combien important et qui l'est toujours malgré sa saison en Dancy. Mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui, après Coupe du Monde, ont subi comme ça des déconvenues, ont été très irréguliers sur le cours de la saison. Maintenant, oui, c'est un choix surprenant de sa part, parce que l'arrivée de Silvinho et de Juninho, je pensais qu'il allait justement faire une année encore et puis se servir de cette année-là comme un tremplin justement pour attirer de nouveau les clubs qu'il avait attirés un an auparavant. Après, il faut quand même prendre en compte une saison ratée, des blessures à répétition, une visite médicale avortée, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, même si les clubs ont les moyens de faire des visites médicales poussées, on peut se rendre compte quand même qu'à Liverpool, ils ont de gros moyens à ce niveau-là et qu'ils prennent jamais un club sérieux comme Liverpool qui te recale à la visite médicale.
C'est jamais bon.
Bon parce que Pierre, il le sait, c'est pas lui que je veux l'apprendre. Les clubs, derrière, ils posent tout le temps des questions. Donc, ça n'a pas joué en sa faveur. Après, je ne vois que la lassitude, une envie. Alors, il n'a que 26 ans, certes, mais ça fait quelques années qu'il est à l'Olympique Lyonnais, l'envie de découvrir autre chose.
Il fallait partir coûte que coûte, c'est ça que l'on comprend dans le transfert.
Moi, je pense qu'il voit deux étapes maintenant. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit.
Et comme il ne peut plus aujourd'hui viser les quatre gros des championnats, des cinq championnats majeurs, et ben il est obligé de prendre une étape intermédiaire. Et le Betis apparaît justement comme une belle équipe. On le voit avec Lo Celso, on le voit avec d'autres joueurs, c'est une belle équipe. Et ça peut être un bon tremplin pour lui.
Et cette étape, elle est très importante à faire aujourd'hui qu'il a 26, où il a 26 ans, parce que si tu fais l'année en trop à Lyon, t'as déjà plus 26 ans, t'en as 27, 27 et demi, tu pars, il faut que tu fasses peut-être une saison ou deux dans un club comme le Betis Séville, parce que les autres, n'oublions pas que les autres ne se sont pas intéressés à Nabil Fekir cet été, voilà, il y a une Naples à la fin, mais qui est très tardivement, où il y avait encore rien de concret, ou en tout cas rien de négocié entre les clubs, enfin, c'est venu beaucoup trop tard, d'ailleurs, on sait pas réellement si c'était quelque chose de très concret ou pas, et donc moi, je pense qu'il a très très envie de se servir du
du Betis Séville comme d'un tremplin pendant un an ou deux, et ensuite à 28 ans, il n'est pas encore trop tard pour aller ailleurs. Ce qui est plus vrai déjà, et stupide ou pas, mais très souvent, ce qui est plus vrai à 29-30 ans.
D'autant qu'avec son poste de numéro 10, quasiment, ça aurait été compliqué à Lyon cette année. Donc moi, je l'aurais vu.
Oui,
c'est pour
plus,
ça
ouais.
que j'imaginais parles, qu'après une discussion avec l'entraîneur, il aurait pu éventuellement reculer d'un cran dans un milieu à 3 côté gauche. Parce que derrière, le recrutement de Thiago Mendes change la donne. L'année dernière, ça aurait pas pu être possible parce que t'avais pas, voilà.
Pour ça aussi,
là, t'as Thiago Mendes qui arrive. Lui, moi qui l'ai vu jouer toute cette saison à Lille, c'est un cadeau d'avoir un mec comme ça derrière toi. C'est le mec qui rechigne jamais à aller chercher le ballon dans les pieds, ce qui se fait de plus en plus rarement. Donc, tu vois, avec lui, peut-être à gauche. Aouar à droite.
Tu vois un Nabil Fekir.
Je le verrais bien dans l'entrejeu.
Au niveau volume de jeu et ce qui est obligatoire, tu le sais, à ce poste-là, je le pense pas capable de faire ça.
Je sais pas, mais je l'aurais bien vu reculer d'un cran pour animer le jeu d'un peu plus bas, tu vois, de venir, d'avoir un peu plus d'aisance, être plus face au jeu. Là, dans ce rôle de numéro 10, il était souvent dos au jeu. Il a eu du mal, il avait plus ses fulgurances là où il avait avec ce coup de rein où il arrivait à se retourner. Et puis avec sa science de la passe,
un cran un peu plus bas
avec un peu moins de pression, il aurait pu alimenter les flèches que tu vas avoir devant. Ouais.
Vous avez tous les deux parlé de tremplin pour Nabil Fekir. Il en est là aujourd'hui dans sa carrière à chercher un tremplin après Lyon.
Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment ça l'est. Il y a eu un coup de fil d'Abidal à Fekir, un coup de fil, je pense, amical, quoi, qui lui a dit viens au Betis Séville, viens te montrer en Liga un an, deux ans, et après derrière t'auras quelque chose de très intéressant. Et je pense que dans sa réflexion, en plus que le football espagnol lui corresponde parfaitement, je pense, plus que par exemple le football italien ou même que le football anglais. Moi, je suis persuadé que dans sa réflexion, ça, il y a une espèce d'étape comme ça à marquer pour lui, et que le Betis Séville finalement est un club presque parfait pour ça. C'est un club où logiquement, s'il travaille et qu'il est sérieux, il sera titulaire. Voilà, il sera pas en concurrence avec des joueurs beaucoup plus forts que lui. C'est un club où ça joue au ballon, il adore ça. Tout est réuni pour flamber là-bas. Si physiquement il a pas de pépins comme il a pu avoir ces derniers temps.
On rappelle que le Real Betis a terminé 10e de Liga la saison dernière, donc n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Et je réitère ma question, celle posée à Pierre. On en est là aujourd'hui pour Nabil Fekir à chercher un tremplin?
Ouais, on en est
vraiment
là. Oui, on en est là parce que inévitablement. Les clubs recherchent des joueurs qui sont en parfaite forme physique, tu le vois, hein, tous ceux qui signent avec des gros transferts aujourd'hui, c'est des mecs qui jouent 40-50 matchs dans la saison. Aujourd'hui, Nabil Fekir, il est pas en capacité sur ce qu'il a montré la saison dernière, excepté sur quelques matchs de Ligue des Champions
où
il a fait des très bons matchs, mais ça a été trop irrégulier. Aujourd'hui, la concurrence est telle sur le marché des transferts que quand t'es un peu moins bien, plus je te dis avec ce spectre de la blessure, pourquoi n'a-t-il pas signé avant? Les clubs se posent des questions et font d'autres choix.
Ouais, t'intéresses d'autres clubs?
Oui, il en est là, j'y sais.
En tout cas, trajectoire assez incroyable de Nabil Fekir qui en signant à Liverpool, aurait pu être évidemment champion d'Europe avec un transfert à 70 millions d'euros. Et aujourd'hui, il va signer pour trois fois moins cher pour le Real Betis. Alors lui, ça ne le concerne pas directement, mais ça concerne évidemment l'Olympique
Lyonnais. Il y a des raisons à ça, on en a évoqué pas mal. Qui nous dit que dans un an et demi, deux ans, on ne fera pas un after, j'y sais, peut-être, si on est encore là, mais en disant, Nabil Fekir a bien fait d'aller au Betis Séville parce qu'il a enchaîné les matchs, il a retrouvé une forme physique, il s'est régalé. À l'image de par exemple d'un Lo Celso qui a fait des choses très très bonnes dans cette équipe, avec un profil équivalent mais un petit peu quand même. Et peut-être que ça lui aura permis effectivement d'avoir un tremplin et d'avoir le transfert dont tu parles un an et demi plus tard ou deux ans plus tard.
Bon, on en reparle dans quelques instants en tout cas.
C'est toujours embêtant quand même. Je l'aurais vu quand même rester une saison de plus histoire de partir dans d'autres conditions. Quand c'est ton club comme ça, t'as passé tellement. Ouais, je sens. Il y a eu une cassure. Mais quand même, tu vois, question de peut-être d'orgueil ou de fierté d'avoir grandi dans ce club-là et de pas partir un peu la queue entre les jambes, tu vois.
Ouais, vous avez encore pas mal de choses à dire sur Nabil Fekir. Rassurez-vous, on en reparle dans quelques instants et on vous attend au 32-16. Thibaut nous attend depuis quelques minutes. Thibaut, on arrive. Ne bouge pas. Enfin, tu peux faire deux trois trucs, mais reste près du téléphone. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
21h16, l'after jusqu'à minuit. Nous sommes avec Pierre Ducrot et Ludovic Obraniak. Et nous parlons de Nabil Fekir, qui a donc choisi le Real Betis pour relancer, selon vos termes, relancer sa carrière. Sachez que dans une vingtaine de minutes, nous parlerons de Dimitri Payet, qui a très bien marché aux États-Unis avec son équipe de l'Olympique de Marseille. Et puis à 22h, nous accueillerons Didier Quillot, le directeur général de la LFP, justement pour faire un point sur cette tournée de promotion américaine. On va continuer sur Nabil Fekir et nous allons accueillir Thibaut au 32-16. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir Jean-Christophe.
Alors,
bonsoir Ludovic.
Tu es supporter du Paris Saint-Germain, mais évidemment, tu as...
Ça me fait quelque chose de parler à Pierre quand même. Je l'ai vu jouer quand j'étais abonné il y a 19 ans.
Voilà. Et quel joueur. Même cicatrice avec Guignon, Thibaut.
Tu as la cicatrice avec Guignon, Ludo ?
Oui, Thibaut. La cicatrice du 7-2 de Rosenborg qui s'est suivie par aussi. Une saison catastrophique aussi.
Le 4-3 de la Corogne.
C'est vrai que quand on est supporters parisiens, on a pas mal de cicatrices. Hein, là, c'est des balafres.
Ah, mais on a des beaux joueurs. On a Janowski.
Igor.
Janowski. Un match incroyable au Vélodrome, non ?
Si t'avais eu derrière Fekir, putain, qu'est-ce qu'il se serait régalé ?
Si on avait eu Fekir ou
si t'avais eu d'ailleurs quand il s'il avait eu un mec comme toi un peu plus gratteur
ou si moi j'aurais eu un mec si j'avais eu un j'ai eu JJ à côté
c'est vrai que jouer avec JJ au cochon c'est pas mal
le régal.
C'est une bonne transition de Ludo parce que moi je trouve que Nabil Fekir en Betis c'est une bonne idée. J'ai vécu à Séville et c'est un peu mon deuxième club de cœur. Et en fait, là, au Betis, il va avoir Carvalho, il va avoir Guardado, il va avoir des mecs qui vont choper des ballons. Et lui, ce qu'on va juste lui demander, c'est de jouer, en fait. Et donc, je pense que c'est un bon choix parce qu'il va aller dans un championnat où il va jouer. Il va être une sorte de 9,5 derrière un 9. Et le Betis, l'année dernière, a eu un gros problème offensif, finir les actions, marquer des buts. Alors qu'ils jouent beaucoup, ils ont beaucoup la possession. Donc, je pense que c'est un super choix au niveau du sportif, ouais.
Ok, c'est un super choix au niveau sportif. Tu as vécu dans cette ville. C'est vrai qu'il y a une passion pour le foot. Il y a deux clubs, deux très bons clubs de Liga. Il faut bien le reconnaître. Mais est-ce que pour vous, Pierre, Ludo, il y a quand même pas l'idée d'une régression? Jamais.
C'est reculer pour mieux sauter.
Ce qu'on
essaye de t'expliquer, c'est que il arrive dans une situation où quand t'es plus désiré par les grands clubs européens. Et t'as une espèce de monotonie qui s'est installée parce que t'es l'enfant de Lyon, t'as une certaine lassitude, t'arrives plus à te sublimer, t'arrives plus à trouver le panache nécessaire.
Ok, donc on change coûte que coûte.
Et tu te dis bon, j'ai le Bétis, c'est pas si mal, je prends et puis je verrai ce que ça donne. Ouais.
Pardon, Thibaut.
Je dis c'est pas coûte que coûte, Jean-Christophe. C'est un des clubs derrière le Barça et le Real qui a la troisième plus grande popularité en Espagne.
Ouais.
C'est les matchs Barça Betis, c'est les matchs qui sont le plus regardés.
Tu sacrifies une vitrine.
Il y a 60 000 personnes pour tous les matchs, c'est un truc de fou.
Lyon, tu vas jouer à Ligue des Champions.
Attention, pas tous en même temps. Oui, Thibaut, termine.
Je disais, il va avoir 60 000 personnes à chaque fois. Et comme le disait Ludovic, il va avoir un semblant de motivation, il va repartir en fait. Il va remettre du gaz dans le moteur et là, il a un bon âge pour faire une, deux bonnes saisons, peut-être bien jouer, reprendre du plaisir et reprendre de la valeur. Parce qu'un joueur qui prend du plaisir, qui a confiance, eh ben, il met des buts, il a des bonnes stats et il va repartir peut-être dans deux ans, il sera à Valence ou à l'Atlético.
Thibaut, un joueur qui reprend du plaisir travaille beaucoup plus, beaucoup mieux. Et c'est ce que je souhaite à Nabil Fekir, c'est qu'il retrouve, on en parlait, mais qu'il retrouve une certaine régularité physique tout au long d'une saison. Et ça, parce que sans ça, il peut pas. On parle de la technique de Nabil Fekir, mais son jeu est basé sur l'explosivité, sur les coups de rein. Physiquement, il est pas bien, on le voit, il peut plus jouer.
C'est quand même un choix fort parce que, en termes de visibilité, tu vas jouer la Ligue des Champions cette année avec Lyon. T'aurais pu jouer la Ligue des Champions avec Lyon cette année. Donc ça veut dire que j'aurais pu sur les phases de poule comme ça a été le cas maintes et maintes fois, on l'a vu
regarde,
c'est super vitrine pour toi pour pouvoir attirer à nouveau
est-ce qu'il s'est pas servi de justement ce qui lui est arrivé cette saison où les matchs de Ligue des Champions, notamment ceux contre City, c'est où il a été le meilleur et finalement ça a pas suffi pour être sur le devant de la vitrine
c'est presque arrivé trop tôt, tu sais, c'est quand le reste la fin de saison il a été quasiment fantomatique. Mmh. Et tu le sais qu'il faut souvent mieux terminer que mieux commencer.
Non, mais moi je pense honnêtement comme Thibaut qu'on sous-évalue un petit peu ce que peut être le Betis en Espagne, déjà premièrement. Alors effectivement, si tu pars sur si tu veux du factuel, est-ce qu'il y a une Coupe d'Europe? Bah non, il y a pas de Coupe d'Europe, voilà des choses comme ça. Est-ce que c'est un des deux ou trois plus gros clubs du pays? Peut-être pas. Mais on parle de la Liga, on parle plus de la Ligue 1. Moi je pense qu'en termes de jeu, en termes de timing dans sa décision de partir aujourd'hui et dans ce que ça peut laisser entrevoir pour Nabil Fekir en Liga, je trouve ça plutôt intelligent comme choix.
Vous savez quoi, Thibaut m'a quasiment convaincu sur le dossier.
Je peux rajouter une dernière chose.
Bien sûr.
Pour achever Christophe.
Parce que je trouve que ce qu'on entend un peu trop aujourd'hui, c'est il va dans le 10e de Ligue 1 et il va pas jouer la Coupe d'Europe. Mais là, c'est le soir en allant du PSG au Betis, moi j'étais super déçu quand il était au PSG, je trouvais que c'était un super joueur de ballon, je disais ça pourrait être l'avenir du PSG au milieu, etc. Il a fait quelques mauvais matchs, mais il était un peu jeune, il fallait laisser du temps. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il a jamais joué son poste au PSG surtout.
Il a pas joué la Coupe d'Europe, et maintenant où est-ce qu'il va être? Il a grandi, il va être peut-être dans un grand club, etc. Il a fait un bon choix.
Alors, c'est vrai, je te rejoins, mais là où je ne suis pas d'accord, et comme ça me permettra de te répondre aussi Thibaut, c'est qu'on compare toujours avec l'expérience au Celso, mais le Celso, il avait 21 ans quand il a signé au Real Betis. C'est quand même pas la même chose que Nabil Fekir. Il n'était pas non plus champion du monde. Il n'avait pas joué la Ligue des Champions pendant 2-3 ans. Enfin, voilà, je veux dire.
C'est justement ça l'intelligence. Je trouve qu'il y a une intelligence chez Nabil Fekir et même chez Jean-Michel Aulas, parce que j'aime pas trop Jean-Michel Aulas, mais je trouve que sur les 3 derniers mois, il est nickel. Il prend que des bonnes décisions. Et ben, l'intelligence, c'est ça, c'est de dire pas rester dans le passé en disant on a foiré un gros transfert.
Ouais.
On va quand même prendre les choses avec la bonne conscience en se disant voilà, maintenant on est plus bas, on est un peu moins bien, mais on va quand même repartir et c'est un bon choix. C'est un choix intelligent de la part d'Nabil Fekir et de Jean-Michel Aulas.
Ils ont gardé un pourcentage sur transfert futur ou pas?
Oui, 20%.
20%,
oui. Voilà. Ce qui est pas mal.
Non, mais ce qui est bien.
C'est-à-dire,
tu récupéreras pas la différence que t'as par exemple avec le transfert de Liverpool, mais ce qui équilibrera finalement les choses si jamais Nabil Fekir fonctionne de nouveau très bien.
Et puis on imagine que ça va un peu mieux après le transfert de.
Qui va un peu dans le sens.
Aussi.
Oui, aussi, c'est ce qui va un peu dans le sens de ce qu'on dit, c'est que Lyon a lâché facilement aussi.
Ouais,
il n'y a pas eu une envie de convaincre absolument. Donc, ce qui veut bien dire que d'un côté et de l'autre, on a pensé qu'on était au bout d'un cycle et qu'il était mieux pour tout le monde que
qu'il aille
ailleurs et de prendre de nouveaux joueurs.
Qui saute dessus, quoi.
Ouais. Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir composé le 32-16 et à bientôt. Rappel, la fleur, évidemment, quand tu veux, on est là tous les deux.
Merci, Jean-Christophe.
De 21h à minuit.
Je voudrais juste dire quand même que l'équipe de cet été, elle est vraiment top. Jean-Christophe en premier. Les Kevin Diaz, des Damien, Périnel, tout ça, Jonathan et vous deux ce soir aussi, Ludo et Pierre, vous êtes vraiment top. Donc ça fait plaisir.
Merci Thibaut.
Bah, merci beaucoup Thibaut. Et tu sais quoi, c'est pas parce que tu viens de me faire une belle gentillesse et une caresse.
T-shirt, Thibaut.
Mais alors j'aimerais bien, mais on m'a dit on est raide là. Thibaut, rappelle-nous quand tu veux. Et si un jour tu as envie de venir nous voir et participer à une émission, ce serait grand plaisir l'on t'accueillera.
Oui, il y a ça derrière. Je croyais qu'elle allait juste lui dire rappelle-nous quand tu veux, ça faisait
non, non, et en tout cas, non, mais Thibaut, tu m'as convaincu, j'étais un peu sceptique et j'ai entendu les arguments. Merci en tout cas.
On rappelle entre moi pour un Nabil Fekir qui réussit au Betis.
Voilà, et ben avec grand plaisir. Et s'il réussit pas, c'est moi qui t'appelle. Salut Thibaut. Léo nous appelle, il est pas forcément d'accord avec Thibaut, pas forcément d'accord avec vous. Bonsoir, Léo.
Bonsoir.
Salut.
Bienvenue dans l'after.
Merci.
Est-ce que ça te plaît, Nabil Fekir au Real Betis?
Alors moi, en tant que supporter de Lyon, ça me plaît pas. Je comprends que les autres supporters des équipes françaises soient ravis de ce transfert et que les supporters du Betis Séville soient également ravis de ce transfert. Mais bon, pour moi, on retrouvera jamais un milieu comme Nabil Fekir à 25 millions d'euros. Et moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui. C'est un joueur qui avait les valeurs de l'OL, qui est formé à l'OL. Et pour moi, on retrouvera jamais un joueur, en tout cas, de son niveau à ce prix-là.
Alors, de toute façon, c'est évidemment le principe du foot, hein, les transferts, les gros joueurs qui partent, Ndombele. Si on parle de joueurs évidemment historiques de l'OL, il y a eu Lacazette, il y a eu Tolisso, il y a 2 ans. Mais toi, ce qui t'embête, Léo, ce n'est pas qu'il parte, parce que Nabil Fekir quitte l'OL, on savait que ça allait arriver à un moment. C'est qu'il parte dans un club comme celui-ci.
Voilà, exactement. Pour moi, il a les compétences et les qualités pour partir dans un club avec qui joue le tableau aujourd'hui. Le Betis Séville, c'est un club qui est du milieu de tableau. Il joue pas la Coupe d'Europe. Même si c'est un club historique de d'Espagne et qui est très regardé en Espagne, pour moi c'est pas du niveau de Nabil Fekir.
Ouais, t'aurais préféré le garder, c'est bien ça. Quitte à le perdre,
moi,
autant qu'il aille dans un grand club, sinon
c'est
le garde.
Moi j'étais pas contre son départ, parce que c'est vrai que Nabil, en tout cas la dernière année, on n'avait pas l'impression qu'il était forcément vraiment dans la saison et qu'il était motivé avec l'OL. Donc j'étais pas forcément contre son départ, mais je trouve que voilà, au change, on n'y gagne pas forcément, et que oui, c'est sûr que les autres supporters des équipes françaises apprécient ce transfert, et que les supporters du Betis apprécient ce transfert, mais pour les joueurs de Lyon, 25 millions d'euros, alors que l'année dernière on aurait pu le vendre 60. Pour moi, c'est pas un joli coup.
Merci beaucoup Léo, et à bientôt sur RMC au 32-16. N'hésite pas, évidemment. Salut. On reparlera de l'Olympique Lyonnais. Pour terminer, tu voulais dire quelque chose?
Non. Pas du tout.
Non, je crois que tu voulais réagir.
Moi, je peux dire quelque chose si tu veux.
On a eu deux.
Attends, je réfléchis.
T'es pas obligé.
Vas-y, ouais, ok.
On a eu deux avis, mais.
Non, mais ce qui est marrant, c'est le décalage qu'on a entre la vision que nous, on a de Nabil Fekir et peut-être celle des supporters lyonnais qui ont peut-être tout le passé.
Elle
aussi.
Est forcément biaisée. Parce que
aujourd'hui.
Tu évalues Nabil Fekir sur ce qu'il a fait à Lyon, sur les années qu'il a sur lesquelles il a flambé avec Lyon. Et aujourd'hui, le niveau actuel de Nabil Fekir.
C'est pas celui des deux, trois premières équipes des
franchement, je l'aurais imaginé plus dans l'autre équipe de Séville. Tu vois, le niveau me paraissait plus. C'est vrai que le Betis, c'est pas mal. Mais je l'aurais peut-être vu à Valence ou à Séville.
C'est quoi,
juste un club?
Ouais, mais après, il y a une réalité du marché aussi où ces clubs-là se sont pas positionnés, quoi, tout simplement.
C'est quoi comme chapeau le Real Betis? Chapeau 1, bon, bah, évidemment, tous les cadres européens, Manchester, le Barça, le Real, le Bayern.
Chapeau
2, 4, hein. On dit que c'est Dortmund, Naples.
Ouais, 3-4, mais 4. Ouais, 4 plus 4 que 3.
Ouais. Chapeau 4.
Ouais, mais faut le prendre comme une étape. Faut le prendre comme une étape, et moi, je suis persuadé que dans sa tête, c'est ça. S'éclater, okay. Prendre du plaisir, reprendre de la forme physique.
Et puis se faire un nom tout simplement en Espagne. Exactement. De dire voilà, faire une demi-saison, une saison, montrer l'étendue de son potentiel, de ses qualités. C'est un championnat fait pour lui. C'est un championnat qui est technique. En termes de technique, quand même un joueur qui est valorisé par cet élément-là. Donc normalement, ça devrait être bonne pioche pour lui si toutefois il arrive à se mêler aussi, parce qu'il va y avoir une adaptation. Pas simple, mais mais c'est un coup de poker qui tente, et je dis pourquoi pas.
Bon, on est forcément un peu triste de voir partir un champion du monde qui évoluait en Ligue 1. On savait évidemment que ça allait arriver. Si vous deviez garder là comme ça une image de Nabil Fekir, ce serait laquelle? Bon, il va pas aller très loin, hein, il va qu'à Séville, hein, on va le revoir, mais Nabil Fekir en Ligue 1, qu'est-ce qui vous reste? J'en ai une, moi, à vous proposer, si là, vous ne trouvez pas.
Dis-nous.
Geoffroy Guichard.
Ah oui, quand il chambre un peu le public.
Voilà, c'est la première idée qui me vient. Hein,
Moi j'allais dire,
je sais pas si elle est positive ou négative.
Son frère existe. Alors pour finir.
Alors son frère, son petit frère, Yacine Fekir.
J'allais te répondre la rentrée avec son petit frère, tu sais, sur le terrain le jour. C'était sympa, quoi. La conf de presse, enfin la zone mix derrière, etc.
Mais il est parti aussi avec lui. Hein. Yacine va signer avec son frère au Betis.
C'est une belle histoire.
Il a pas mis un but aussi. C'était pas cette saison, la saison d'avant, un but du milieu de terrain, même derrière le milieu de terrain.
Il a mis un lob, je sais plus contre qui. Faudrait retrouver.
Ouais, bah allez-y avec le hashtag RMC Live, mais
il en a mis un comme ça, t'as raison. Bah il en a mis un paquet de beaux buts. Hein. Honnêtement, t'aurais pu nous prévenir avant, j'ai dit, on aurait réfléchi un peu là. Parce que
ouais, bah non, mais je me suis dit qu'on faisait un débat sur Nabil Fekir, vous alliez un petit peu travailler, mais
t'as le but à Donetsk, hein, où il ramène Lyon quand même depuis, ça faisait un bail, 8e de finale de Ligue des Champions, c'est pas rien quand même dans un match ou combien.
Il y a celui à City aussi, qui est beau. Avec la récupération au milieu de terrain. Et là, il était physiquement prêt.
Là, il était bien.
Sur ces matchs-là. Là, il était bien. Et là, tu vois tout l'étendue du talent.
Mais on en discutait, l'enchaînement, blessure, reprise. Le fait qu'il y a que la compétition, la compétition régulière qui t'emmène à un niveau de forme acceptable pour un joueur de ce calibre-là. Le fait qu'il est, il a souvent été stoppé dans son élan fait qu'il a jamais réussi à trouver son rythme de croisière. Et lui, on le voit, il a besoin d'être en forme physiquement, il a besoin de ce coup de rein, de ce peps pour sortir des marquages, pour faire différence sur 5-6 mètres. Et c'est vrai que le coup de rein, il était moins là cette saison. Ouais. Pour qui bosse pour le retrouver.
Une petite dernière question, forcément difficile d'y répondre, mais tu es aussi agent de joueur, Pierre. Imaginons, tu es agent de Nabil Fekir, il y a beaucoup de paramètres que tu n'as pas forcément pour trancher, pour juger.
Dire, malheureusement.
Mais oui, je comprends. qu'est-ce que tu lui aurais conseillé?
Bah, ce qui est important dans ces cas-là aussi, c'est le ressenti du joueur, honnêtement. C'est pas de la langue de bois, hein, mais c'est... Les gens ont peut-être une image un peu tronquée de l'agent, parce qu'il y a, c'est toujours pareil. T'as quelques exemples ou quelques énergumènes qui cachent un peu la réalité de ce métier. Mais la relation avec ton joueur, elle doit être surtout quand t'as un joueur comme ça, voilà, très très important. Mais elle doit être suffisamment développée et travaillée pour que le jour où il y a des décisions importantes à prendre comme ça, tu saches exactement le ressenti de ton joueur, l'état psychologique dans lequel il est, et ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que Nabil Fekir, nous, ce qu'on maîtrise pas aujourd'hui, c'est que Lyon, il pouvait plus y rester, quoi. C'était fini pour lui, il voulait plus y rester parce qu'il avait peut-être peur de plus jamais pouvoir en partir dans d'assez bonnes conditions, ou parce qu'il sentait qu'il arrivait plus à faire les efforts à Lyon parce qu'il arrivait au bout.
On peut se dire que ça peut être pratiquement que ça.
Parce ouais, il y a toujours
au niveau salaire.
Oui, je pense pas que ça sera une culbute
tu fais pas une culbute.
Non, on est d'accord.
Sportivement, tu perds quand même la possibilité de jouer la Ligue des Champions.
Tu perds au niveau compétition, ouais. Mais je pense que tu vas gagner.
Tu gagnes sur la régularité de la saison.
Ouais, et puis ouais. Tu gagnes en termes de qualité de jeu qui correspondent plus à, enfin, en tout cas, de critères de jeu qui correspondent peut-être plus aux qualités de Nabil Fekir. Ouais. Ça, tu gagnes peut-être là-dessus. Donc, c'est un choix qui, si je suis agent, en tout cas, moi, de Nabil Fekir et que Nabil Fekir me dit je sens bien le truc, c'est quand même le Betis le Real Betis et c'est pas un club lambda,
mais c'est vrai que 25 ça paraît pas
on a été intelligent dans cette histoire là, même Lyon, même
pour
Lyon.
Vraiment clore ce débat, deux choses à vous dire. Le Lob, c'était il y a deux ans, enfin un an et demi, ouais, c'était face à Bordeaux, magnifique, du milieu de terrain. Et l'autre chose à vous dire, et c'est vrai que c'est CAS qui nous dit ça, avec Liverpool, Fekir n'était pas libre dans 6 mois. Et c'est vrai qu'il arrive à un an de la fin de son contrat, donc c'est un peu plus compliqué à vendre. Voilà pour cette explication, et je vous rappelle donc le montant du transfert, environ 25 millions d'euros, plus 20% à la revente. Nous allons revenir dans quelques instants pour poursuivre l'after jusqu'à minuit. Nous allons vous parler de Dimitri Payet, qui a cartonné aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait être l'homme providentiel de l'OM cette saison? Oui ou non? Est-ce que vous y croyez? Vous nous appelez au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
. 21h34, nous sommes ensemble jusqu'à minuit, c'est de l'after comme tous les soirs, 21h minuit avec Pierre Ducrot, avec Ludovic Obraniak. Nous avons disserté sur Nabil Fekir il y a quelques instants, nous allons maintenant parler d'un homme revanchard, quoique peut-être que Nabil Fekir l'est aussi. Dimitri Payet a marqué en 2 matchs, quasiment l'équivalent de son nombre de buts en Ligue 1 la saison dernière. Lors du tournoi aux États-Unis, l'international français a inscrit 3 buts, 2 en demi-finale, 1 en finale cette nuit, et l'OM a donc remporté cette première édition des EA Ligue 1 Games. Dimitri Payet, est-ce qu'il peut devenir l'homme providentiel de Marseille cette saison? Est-ce que vous y croyez, oui ou non, Pierre?
Je sais pas. Je suis trop prudent avec Dimitri Payet pour pouvoir me prononcer aujourd'hui sur un début de prépa avec des pseudo matchs de prépa dans des conditions un peu étranges. J'ai envie de dire que si c'est l'homme providentiel, ce sera une très très bonne nouvelle pour Marseille, parce que c'est forcément un garçon qui a beaucoup beaucoup de talent. Mais non, pour l'instant en tout cas, moi j'ai pas envie de dire oui, j'y crois. J'ai envie de dire j'attends de voir, parce qu'il a souvent fait des débuts de saison comme ça où il est mieux, où il est affûté. Donc forcément, un peu comme Nabil Fekir d'ailleurs, quand ce garçon-là est affûté, après derrière le talent il est juste énorme. Mais que très souvent derrière t'as des périodes où il est plus du tout affûté, où il est plus bien, où il défend plus, du coup il travaille beaucoup moins sur le terrain et il arrive plus non plus à faire la différence, et où c'est plus du tout le même joueur. Donc moi non, j'ai envie de te répondre, je suis désolé, hein, c'est pas de la langue de bois, mais j'en sais rien aujourd'hui.
Okay.
Je suis incapable d'avoir une certitude avec Dimitri Payet.
Comme disent les Espagnols, wait and see. C'est ce que t'es en train
c'est
de
exactement
dire.
Exactement ça, ouais. Ils le disent tellement bien, les Espagnols.
Ouais, ils le disent avec leur accent et tout ça, très chantant et très reconnaissable. Tout à fait. Ludo, tu as envie de te prononcer ou pas?
Ah, je suis un peu sur la même longueur d'onde que Pierre, puis moi je le connais, j'ai joué avec lui, donc je connais bien l'animal. Qu'il ait la capacité à briller et à sublimer une équipe, il sait le faire. Après, il brille aussi par son irrégularité, c'est ce qu'on lui reproche depuis tant d'années. Qu'il soit bon sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a déjà vu de faire à maintes reprises, que ça soit en sélection, que ça soit avec l'OM, que ça soit lorsqu'il s'est exporté. C'est un garçon qui a toutes les qualités nécessaires pour pouvoir briller, notamment. moi, on parlait de plan de carrière tout à l'heure avec Nabil Fekir. Il a quand même montré son attachement à l'OM. C'est quand même un mec que les supporters devraient apprendre à aimer. Il l'aime. Alors, il est souvent un peu chahuté parce qu'il est souvent irrégulier, mais son choix de carrière à lui, quand même. Et il est à West Ham. Il flambe à West Ham. T'as 4-5 mois à attendre pour attendre le mercato en Angleterre. T'as fait la musique à West Ham et t'avais juste à attendre qu'il y ait un gros club qui vienne. Et je suis sûr qu'il l'aurait.
Oui, il l'aurait eu.
Final, il revient à l'OM dans des conditions un peu bancales où il est la figure de proue d'un projet qui finalement ne l'était pas ou pas aussi clinquant que l'aurait pu l'imaginer. Là, peut-être que Villas-Boas, il y a peut-être cette relation aussi parce que il était avec un entraîneur qui était acquis à sa cause. Ouais. Donc, quand ton entraîneur, tu sais comment c'est, hein, t'as du mal à te remettre en question, Là, avec un nouvel entraîneur qui arrive, l'orgueil de la saison passée s'est fait beaucoup taper dessus, s'est fait beaucoup allumer. C'est un garçon qui a quand même de l'orgueil. À l'image aussi d'Adil Rami, je sais que pour moi, c'est une connerie de le licencier. Même si la saison a été ultra mauvaise, sa communication a été horrible, je pense que c'est des garçons qui ont quand même du caractère. Je les connais et je sais qu'ils ont à cœur de vouloir démontrer quelque chose cette saison, de dire non, on n'est pas comme ça. On va vous montrer qu'on est autre chose. Ouais, j'en suis sûr. J'en suis persuadé.
Ouais. Alors,
après, ce que Dimitri, il est capitaine. Donc, il doit être le leader de cette équipe-là, c'est sûr.
Il y a plusieurs réactions via le hashtag RMC Live. Et justement, tu vas nous en parler, toi qui le connais bien. Il y a Président Labrune, pas le vrai, évidemment, sur Twitter, qui nous dit « Payet, c'est toujours pareil, un mois pour gratter l'augmentation et puis ça disparaît, on peut pas compter sur lui. » Et il y a Fred Le Marin qui nous dit « Payet marche à la carotte, c'est un petit peu pareil que le précédent message. Rappelez-vous, avant la Coupe du Monde, il va faire les efforts pour le championnat d'Europe où il était très loin de l'équipe de France. »
Après,
il est comme ça aussi.
Il est comme ça aussi. Oui, il y a des échéances importantes et t'as besoin. Ouais, c'est un garçon qui a besoin d'être stimulé. C'est vrai qu'à l'OM depuis quelques saisons, il y avait un projet qui était intéressant pour lui au départ. Quand c'est le Champions Project et que au fil du temps, tu vois que le programme, en tout cas le projet, il a du plomb dans l'aile. La motivation où lui ça devait être le joueur majeur et il a un peu baissé ou en tout cas il a été au même stade que le projet, quoi. Il a diminué avec le projet.
Là où il a été le meilleur finalement, c'est quand l'OM a été un peu bien en Europa League, etc. Où là t'as revu un petit peu le bon Dimitri
Payet. Parce que dès qu'il y avait du monde qui est revenu en stade, l'atmosphère, les matchs couperets où il faut se sublimer, il aime bien ces ambiances là. Donc, et c'est vrai que il se passe trop peu de choses à Marseille pour que lui arrive à se sortir. Donc, après lui, il a besoin d'être bien.
Est-ce qu'il ne faut pas retourner la question finalement dans l'autre sens? Ta question, c'était est-ce que Dimitri Payet va être le.
Est-ce qu'il peut devenir l'homme providentiel de l'OM
providentiel,
cette
non. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que si l'OM réussit à se remettre à l'endroit et à faire une très bonne saison, est-ce qu'on va enfin pouvoir donc retrouver Dimitri Payet dans un vrai niveau au vrai niveau de son talent?
Il faut qu'il fasse un effort au niveau de son physique.
Ah oui, il y a du boulot à faire.
Il y a du boulot à faire au niveau de son physique.
Mais là tout le monde le dit, il est affûté.
Il doit rester comme ça toute l'année.
Bien sûr.
Tu peux pas arriver avec en étant le devant, enfin la pancarte d'un projet majeur et puis arriver et être en surpoids.
Pas être prêt,
Et pas être prêt. Lui, c'est un garçon, il a besoin d'être prêt physiquement. Il faut qu'il soit cette année, il faut qu'il soit accompagné peut-être d'un préparateur physique ou qu'il soit un peu plus assidu sur peut-être son hygiène de vie. Mais si il est en forme physiquement, techniquement, on l'a vu.
Il a le talent d'ailleurs.
C'est galettes, c'est les coups francs, les passes D, le pied, il y a aucun problème. La tête aussi, parce que c'est un garçon qui sait rebondir. Il tombe souvent dans le trou, mais il arrive souvent à rebondir, ce qui dénote quand même une force de caractère. Et je suis sûr qu'avec la saison de la Coupe du Monde ratée, de la saison ratée avec l'OM, je sens qu'il est parti sur des bases où l'orgueil a été piqué et il va revenir bien. Après, il va falloir que ça soit
sur la durée,
sur la saison.
On parlait de trajectoire tout à l'heure. La trajectoire, évidemment, le plan de carrière de Nabil Fekir, on en a discuté avec cette signature au Real Betis. Tu as parlé de la trajectoire de Dimitri Payet. Et c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu, quand on se pose sur sa carrière, où il flambe lors du championnat d'Europe en 2016, en tout cas la phase de poule, mais bon, c'est l'une des figures, l'une des stars à ce moment-là, avec Antoine Griezmann de Dimitri Payet, de l'équipe de France. Je me souviens qu'on se demandait si c'était lui le véritable patron des Bleus. Puis arrive une très bonne partie de saison avec West Ham. On est donc en janvier 2017. Et là, est-ce qu'il fait une énorme erreur de carrière?
Ludo l'a dit, on le dit. T'écoutes le joueur. Le joueur, apparemment, ce qui s'est passé quand il a été à l'OM, il a été touché, il a été harponné par ce club sur le plan de l'émotion, sur le plan de plein de choses. Et il voulait absolument, son désir était absolument de revenir à Marseille. D'autant qu'il y avait un projet qui s'apparentait, un grand projet avec un investisseur costaud, des moyens. Donc il s'est dit, bah, peut-être que la marche est trop haute pour aller chercher un gros anglais. Je reviens dans des choses qui sont plus dans un secteur où je maîtrise mieux et je suis la star de ce club-là. Je pense qu'il fait une erreur majeure dans un développement de carrière, ce qu'il faisait à West Ham. Honnêtement, je mettrais ma main coupée qui est il y a un gros qui venait le chercher.
Un du Big Five, ouais, ouais. Bien sûr. C'est sûr. Moi aussi, j'en suis persuadé.
Alors, après, il avait 30 ans à ce moment-là.
Ouais. Peut-être qu'il est très heureux comme ça.
Possible.
C'est vrai qu'il a raté l'occasion d'aller tutoyer le haut du panier.
C'est toujours très facile, après, effectivement, d'analyser ce qui s'est passé au moment où lui fait le choix. Il n'a pas toutes ces données-là.
Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Parce que vous tenez le discours inverse avec Nabil Fekir.
Non.
Il fait un choix et rétrospectivement, on a le droit de se dire que ce choix était mauvais.
Oui, non, mais je te dis pas qu'on n'a pas le droit, je te dis que c'est facile de le dire aujourd'hui, parce qu'on a tous les éléments. Lui, le jour où il décide ça, probablement que lui, il croit au projet marseillais qui démarre. Et il se dit, on va aller taquiner le PSG, on va être deuxième, troisième, on va jouer avec Lyon, on va jouer avec des champions, et je vais pouvoir me montrer aussi bien ici qu'en Angleterre.
Il ne l'avouera jamais, mais tu lui poses la question la saison dernière, s'il te dit qu'il regrette ce choix-là, tu peux être sûr qu'il va te dire oui.
Oui, je pense, ouais.
Bien évidemment.
Ok, bon, on continue de parler de Dimitri Payet, et évidemment, on vous attend, supporter de l'OM au 32-16. Renaud est là déjà, on te prend dans quelques instants, mon Renaud. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Avec Ludovic Obraniak, tout bronzé, avec Pierre Ducrot, un petit peu moins bronzé. Vous pouvez nous admirer sur RMC Sport News. Sinon, nous sommes évidemment à la radio sur RMC. C'est l'after jusqu'à minuit. Et sachez que dans une quinzaine de minutes, maintenant, nous recevrons notre invité, le directeur général de la LFP, Didier Quillot, pour faire un premier bilan de cette tournée américaine. C'était la première tournée américaine pour la Ligue 1. Et ça s'est terminé la nuit dernière avec la victoire de l'Olympique de Marseille face à Saint-Étienne. L'Olympique de Marseille, justement, si l'OM s'est imposé, c'est aussi grâce à Dimitri Payet. Et on se pose cette question, est-ce que ça peut être l'homme providentiel de Marseille cette saison? Et Renaud nous appelle au 32-16. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir Ludovic et bonsoir Pierre.
Salut Renaud.
Vous allez bien tous les trois?
Écoute, on va très bien. Mois de juillet, il fait chaud.
Oui, puis on est surtout ensemble là avec vous, donc.
Ouais. Bon, on est un peu dégoûté quand on voit Ludovic quand même, hein, parce qu'il est quand même, il est beau comme un camion tout neuf.
Ben non, parce que ça appelle à. Tu sais que tu vas y aller, tu vois. Tu vois le revenant et tu sais que ça va t'arriver dans quelques temps.
Ouais, voilà.
Donc,
tu sais, moi j'ai toujours préféré être le dernier à partir en vacances. Oui. Quand tu reviens, les autres sont au taf depuis un mois et demi déjà. Toi,
j'ai toujours détesté. Genre, tu pars le 1er juillet.
Ah ouais, mais grave.
T'es au boulot le 20.
Et les autres s'en vont après, quoi. Oh, horrible.
Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. T'es dégueulasse. T'es dégoûté. Hein.
Tu seras tout blanc au mois de septembre.
Non, c'est impeccable. Moi, je suis parti entre deux eaux. Là, c'est impeccable. Je reviens, je suis frais. Le championnat va recommencer dans pas très longtemps. C'est impeccable.
Le polo jaune, c'est pour Julien Alaphilippe ou rien?
Exactement.
Avoir.
C'est pour lui rendre hommage.
Très bien. Ouais. Pardon, Renaud. Oui, c'est pardon, à toi. Renaud. On va très bien, en tout cas.
Bon, ouais, parfait. Moi, je suis très, très content pour vous. Hein. C'est très sincère. Et puis, félicitations à toute l'équipe. Et je suis content de savoir que l'émission est numéro une à cette époque de la soirée.
Exactement.
Grâce à toi, première radio de France. C'est grâce mérité, ça fait plaisir. C'est une institution maintenant, l'After, depuis plus de 10 ans. Oui, bon, pour en revenir à l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, pourquoi pas, l'homme providentiel. Donc, il faut être, on va essayer d'être raisonnablement optimiste. en sachant que c'est quand même un joueur qui est quand même un formidable footballeur, hein, qui est pétri de qualité technique, et ça, personne ne peut dire le contraire. Et ensuite, je pense qu'effectivement, avec la saison un peu moyenne l'année dernière, il y a moyen peut-être pour Marseille cette année, avec un nouvel entraîneur, de voir Dimitri Payet prendre ses responsabilités, déjà en tant que leader technique, mais peut-être aussi en tant que leader de vestiaire, puisque maintenant, ça fait un petit moment qu'il est à l'Olympique de Marseille. Donc, on peut peut-être raisonnablement penser qu'il va essayer de faire une saison complète. Surtout que Marseille n'est pas en Coupe d'Europe, donc il faut absolument tout faire pour faire le meilleur championnat possible. Et puis aussi jouer aussi les Coupes de France et la Coupe de la Ligue. Donc je me dis pourquoi pas avec un nouvel entraîneur, ça peut effectivement se dérouler. Hein. C'est un peu comme, c'est pour faire une métaphore avec l'école. Quand vous êtes au lycée, vous avez un prof de français ou un prof d'histoire géo que vous aimiez pas, ça se passe pas bien. Vous êtes à 11-12 de moyenne et puis vous avez un prof passionnant qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même et vous passez à 15-16 de moyenne. Donc on pourrait très bien envisager que l'Olympique de Marseille, même s'il n'y a pas beaucoup d'arrivées, enfin là il y a deux arrivées, je pense que Benedetto ça va faire plutôt du bien aussi, je pense qu'il a beaucoup de qualité. Donc pourquoi pas voir un Olympique de Marseille en forme grâce à Payet, et puis il a peut-être poussé toute l'équipe à donner le meilleur de lui-même, hein. Donc pourquoi pas, ça peut s'envisager, en sachant que à part Paris et Lyon qui ont l'air de partir quand même sur de très très bonnes bases, parce que bon, il y a déjà l'effectif, ils ont les moyens, il y a quand même beaucoup de qualité individuellement et collectivement, rien ne dit que Lille, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, finisse sur les chapeaux de roue à la deuxième place. Donc il faut que Marseille y croit, pourquoi pas dans les trois ou les quatre premiers du championnat, ça me paraîtrait être quelque chose de plutôt pas mal.
Reste avec nous, Renaud. Alors moi, j'adore cet outil Twitter parce qu'on peut lire évidemment des messages magnifiques. Yafid qui nous dit: vous dites tout et son contraire. Quand l'OM a été battu par une D2 anglaise, c'est la fin du monde. Et là, l'OM gagne. Eh ben non, c'est un pseudo tournoi. Soyez sérieux et respectez votre métier. C'est honteux. Alors Fid, déjà, tu te calmes. Et ensuite, je te répondrai.
On n'a même pas parlé du tournoi.
Non. Mais ça, c'était il y a quelques émissions. T'étais encore sur les plages. Fid, quand on a parlé de l'OM il y a quelques semaines, même une semaine, j'étais là à ce micro, et on se demandait, après le début de préparation et le manque de mercato, est-ce que vous êtes inquiet pour la saison de l'OM? Et là, on se demande pas si, en gagnant ce tournoi américain, l'OM va gagner la Ligue des Champions. On se demande si Dimitri Payet peut enfin faire une bonne saison avec l'Olympique de Marseille. Ce qui n'a rien à voir, mon fils. Voilà, je voulais juste lui répondre. Donc, respecte-toi aussi. Renaud, tu voulais ajouter quelque chose ou pas?
Non, rien de particulier. Après, je vais prendre plutôt votre défense là, suite à ce que tu viens de dire, Jean-Christophe. Je me permets de te tutoyer.
Mais
je suis d'accord avec vous. Je pense que là, on vous fait un petit peu un mauvais procès en disant oui, en gros, vous montez Marseille en épingle et puis quand ça va pas, c'est catastrophique. Non, je pense que vous avez une analyse plutôt mesurée, quels que soient les afteriens, que ce soit Pierre. Ludovic ou Daniel ou enfin toute l'équipe, donc je trouve que
Daniel il a un avis
vous avez quand même des analyses plutôt pertinentes et intéressantes, donc je trouve pas que vous soyez dans ce genre de choses là,
bon, après
catastrophisme le plus total ou dans l'euphorie la plus totale.
Après ça peut arriver, hein. C'est juste que là c'était pas du tout le même débat et on n'est pas en train de monter au nul l'Olympique de Marseille.
D'accord, effectivement, mais faut qu'on saisisse le sujet du débat. Et là le sujet c'était Dimitri Payet, pas l'Olympique de Marseille. Futur de l'OM.
Oui, exactement.
Merci beaucoup Renaud d'avoir composé le 32-16 et à bientôt évidemment.
Merci,
sur RMC. Salut
Renaud.
Avec grand plaisir et bonne fin de soirée à tous les trois.
Merci beaucoup. On te souhaite une belle saison avec l'OM. Xavier nous appelle également, supporter de l'OM. Salut Xavier.
Salut l'after.
Bonsoir Xavier.
Alors, Dimitri Payet qui flambe cette saison, qui porte l'OM, est-ce que tu y crois?
J'y crois pas forcément parce que le foot c'est un sport collectif et avec Dimitri Payet ça prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est un joueur qui ne fait pas du tout d'efforts collectifs quand il s'agit de défendre ou autre. Et pour moi, Dimitri Payet ne pourrait être l'homme providentiel que s'il a une équipe providentielle. L'année dernière, on a manqué d'un Steve Mandanda qui rassurait, d'une défense qui rassurait. On n'avait pas forcément des lignes qui montaient pour délivrer les bons ballons. On avait un Thauvin, vous voyez, qui était un peu comme ça. Et puis un jour, il a réalisé qu'il fallait faire des efforts défensifs. Et depuis qu'il fait ça, ça fait deux saisons qu'il fait deux excellentes saisons. Et Dimitri Payet, il est un peu plus vieux. Et puis c'est un peu comme un homme, c'est un peu difficile de changer les mauvaises habitudes. Et je ne pense pas, j'espère secrètement qu'il m'entend et qu'il est en train de m'insulter pour et qu'il va faire une super saison.
Mais je n'y crois pas parce que en fait, il faudrait qu'il y ait un super héros, qu'il y ait un super Steve, il faudrait qu'il y ait un super, il faudrait qu'il y ait toute une équipe qui fait que bah ses défauts soient complètement estompés
finalement,
et se libérer les cours. Voilà.
Finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas inversé un peu les choses? Et est-ce que Dimitri Payet n'est pas dépendant de plutôt un grand OM pour lui être à son niveau, plutôt que d'être celui qui va devenir le leader et qui va porter l'OM ou qui va amener l'OM tout là-haut? Oui, moi, je pense un peu plus comme... excuse-moi, j'ai oublié ton prénom.
Comme Xavier.
Comme Xavier, pardon. Je pense plus comme
Xavier. Il y a aussi une question de positionnement pour moi qui est important. Dimitri, on le sait, il est plus porté sur l'offensive que sur le défensif. Alors, on parlait de son état de forme tout à l'heure. S'il revient à un état de forme acceptable,
il pourra
bien
faire
sûr, des efforts. Non, mais... Même s'il peut, faire des
pas qu'il jouera
ce garçon-là,
mais...
ce garçon-là, ses atouts, c'est dans les 30 derniers mètres. Voilà. Alors après, on est d'accord là-dessus. Dans un effectif, tout le monde doit défendre. Ouais. Mais si tu peux le mettre à un poste où c'est un peu moins, où t'as besoin d'un peu moins travailler, parce que putain sur le côté, en plus généralement ils le mettent avec Amavi, donc t'as double de travail.
Mais... Donc, mais faut qu'il y ait
t'as double de boulot. Et Dimitri. À l'heure actuelle, il est plus tout jeune. Marseille, rarement une équipe la saison dernière qui avait la possession du ballon et qui imposait son jeu chez l'adversaire. Donc, pour lui, des courses de 70 mètres, 70 mètres à faire, aller-retour.
Mais c'est ce qu'il attend. Villas-Boas,
je
le mets à gauche.
Et tu vois l'image de Nabil Fekir. Moi, je l'inclurais soit derrière deux attaquants, ou alors, tu sais, en triangle avec deux à plat et lui un peu plus haut, derrière deux attaquants, ou alors dans un milieu à trois côté droit.
T'en reviens à une difficulté, c'est déjà deux attaquants. Qui tu mets deux attaquants à l'OM? Ouais,
déjà que c'est dur d'en trouver un. Hein.
Bah, t'as Valère Germain devant, ouais. Mais il t'en manque un autre.
Aux États-Unis, il a joué meneur de jeu également. Hein. Il a joué sur le côté gauche, mais il a aussi
clairement
joué
été prouvé que Germain était quand même bien meilleur avec quelqu'un à côté de lui.
Bien sûr.
Après, est-ce que Benedetto a le profil de Balotelli? J'en suis pas certain.
Oh non,
mais c'est un garçon qui peut tourner autour de toi, qui peut être assez intéressant. Moi, Dimitri Payet dans un poste, dans un milieu à trois côté droit, tu sais, ou en tant que numéro 10, un peu.
Tu veux nous mettre tous nos numéros 10
Non, mais. Vu que les clubs ne veulent plus jouer avec le numéro 10, ouais. Ce qui est une connerie, à mon avis.
Bah, quand on a, oui, c'est une connerie.
Bah ouais, c'est une connerie. Mais donc, du coup, comme ils peuvent plus jouer sur les côtés, tu les mets où? Il a été essayé il a été essayé en deuxième attaquant. Lui, il a besoin de partir d'un peu plus. Il a besoin de partir d'un peu plus bas. Qu'est-ce qui te reste comme option? Il reste pas 50.
Le milieu relayeur.
Messieurs, une dernière observation.
Dans un milieu en losange où lui, il est vraiment, pointe haute.
T'as pas parlé pendant les vacances, toi, pas beaucoup.
Bah ouais.
Ah, tu reviens là. Non mais je suis très heureux. Hein. Je me moque pas, mais t'as vu, il est bavard. Hein.
Non, je suis en train de réaliser que le match de l'after, on l'avait mis un peu dans ce rôle-là. Enfin, il s'était mis tout seul dans ce rôle-là, Ludo, finalement. Hein, c'est pour ça. Hein.
C'est pas faux.
Hein. Tu vois, c'est le physique à droite. C'est le physique qui dicte tout.
Ouais, en fait. Tansai, je prononce. Très mal, mais pardonne-moi, nous dit, dernière observation, Payet peut être l'homme providentiel. Il répond à la question, étant donné que c'est une année avec une compétition internationale, il va s'en donner les moyens. Je pense qu'il aura un esprit revanchard. Il a encore une suite en équipe de France? Oui, non. On n'a pas le temps. Oui, non.
Moi, je pense pas.
Non. Non.
Malheureusement, je pense pas. Ou alors, il faudrait qu'il fasse vraiment une grosse
saison. Non,
mais j'y crois pas.
21h.
Merci, Xavier, en tout cas.
Merci à Xavier et à bientôt au 32-16, à bientôt dans l'After. Il est 21h57, on se retrouve dans quelques instants pour accueillir notre invité ce soir, le directeur général de la Ligue de football professionnel, Monsieur Didier Quillot. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Foot.